l'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Maïdéléo, c'est l'heure du journal.
Sans plaisir de vous recevoir, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette édition du journal. D'abord les titres. Trois nouveaux décès liés au choléra ont été enregistrés ce jeudi dans la zone de santé du Tombwe, s'ajoutant à une quinzaine de cas recensés la semaine dernière. Selon le sous-coordonnateur médical de la CELPA, l'augmentation des déplacés fouillant les affrontements combinés au manque d'eau potable et à l'accès limité aux soins favoriserait la propagation de l'épidémie. Et au Nord Kivu, la garantie exigée pour toute location de maison, que ce soit pour les habitations ou les locaux commerciaux, est désormais fixée à 3 mois, une mesure saluée par les acteurs sociaux du Sud Kivu qui souhaitent voir appliquée aussi dans leur province en conformité avec la loi des baux résidentiels. Les détails dans cette édition du journal, mise en onde par Anicea Konkwa, Myriam Mofadon, c'est mon nom, je suis à la présentation. En début de cette édition du journal, disons que 3 nouveaux décès dus au choléra ont été enregistrés dans la zone de santé du Tombwe située à cheval entre le haut plateau des territoires de Mwenga et Fizi. Ces chiffres viennent s'ajouter à 15 autres enregistrés depuis la dernière semaine du mois de décembre 2025 jusqu'au mercredi 7 janvier dernier. C'est ce qu'indique le docteur Jean-Luc Lukendobonga, sous-coordonnateur médical de la CELPA dans la zone de santé du Tombwe dans un entretien avec Radio Maïndéléo jeudi 8 janvier 2025. 26 à Lankabika.
Les zones de santé les plus touchées sont toujours Lubumba et Kitopo, deux entités qui ont accueilli un grand nombre de déplacés, fuyant la violence armée dans leur village. Ici, les habitants sont confrontés à une promiscuité sans précédent. Sans accès à l'eau potable ou encore aux soins de santé de qualité, ces déplacés sont exposés à un risque élevé de propagation de cette maladie, alerte le docteur Jean-Luc Lukendobonga Ibutwa. Les 3 décès de jeudi 8 janvier 2026 ramènent à 18 le nombre de personnes décédées du choléra en l'espace d'un moins de 2 semaines. Le sous-coordonnateur médical de la CELPA dans la zone de santé du Tombwe confirme néanmoins qu'après l'alerte lancée mercredi dernier, quelques partenaires s'alignent déjà pour la réponse. Il s'agit principalement du bureau des Otia Bukavu et les bureaux Otia Uvira en collaboration avec la Croix-Rouge Uvira. C'est dans ce sens que 800 litres de liquide et autres accessoires pour la prise en charge des cas de choléra ont été mis à la disposition de la zone de santé du Tombwe. Néanmoins, les trajets pour les transferts de ces kits restent périlleux. Il faut au moins 3 jours de marche à pied pour atteindre la zone, indique le docteur Jean-Luc Lukendobonga Ibutwa. Tout en remerciant les partenaires pour avoir répondu promptement à l'alerte lancée, il espère que ces kits vont arriver à temps et rassure que le travail sera fait sur place avec tous les acteurs pour couper la chaîne des contaminations.
Merci Alain Kabika. Et à Shabunda, l'hôpital général de Shabunda, un territoire portant le même nom, est confronté ces derniers temps au problème d'approvisionnement en médicaments. L'alerte est du médecin chef des zones de santé de Shabunda, le docteur Kiatougou Chabani Guillaume, dans un entretien avec Radio Maïndéléo. Jeudi 8 janvier 2026, à l'en croire, l'approvisionnement de l'hôpital général de Shabunda en intrants médicaux s'est fait désormais à partir des Kindu dans la province de Maniema ou encore à Beni et dans la province du Nord Kivu. À partir des Kindu, les intrants doivent être transportés à vélo ou à moto sur une distance de plus de 200 km à un tronçon routier en délabrement avancé, alors qu'à partir des Beni au Nord Kivu, il faut des avions, mais le paiement coûte encore plus cher. Il évoque le désenclavement dans lequel se trouve le territoire de Shabunda suite au mauvais état de la route et la situation sécuritaire qui a provoqué la fermeture des aéroports de Bukavu et Goma. En conséquence, le prix de médicaments est revu à la hausse par rapport au pouvoir d'achat de la population locale. Le docteur Kiatougou Chabani en parle dans cet élément.
Nous avons les problèmes liés à l'approvisionnement en médicaments. Shabunda est presque à la fin de la province du Sud Kivu. Et nous sommes à 360 km de Bukavu. La zone de santé est très enclavée. Pour s'approvisionner, nous nous approvisionnons par Kindu, alors que la route est impraticable. Même si on a porté les médicaments, là, les médicaments viendront par vélo. Autrement aussi, on s'approvisionne par voie aérienne via Beni. Mais vous comprendrez avec moi qu'un kilo de médicaments nous coûte 3,5 $. Alors présentement à Chabunda, un litre de sérum, nous achetons ça à 50 000 francs congolais. Alors que le panier ménager d'un villageois est inférieur à son poids de vie. Tu comprendrais maintenant les conséquences de la facture de l'hôpital qui va venir.
C'était là le docteur Kiatougou Chabani et plusieurs familles restées sans abri dans le village du groupement de Mogoté, chefferie Tambouka, en territoire d'Idjoui depuis le mois de décembre 2025. Ceci après la destruction de leur maison lors de pluies accompagnées d'un vent violent qui se sont abattis sur la majeure partie du territoire d'Idjoui. Dans un entretien avec Radio Maïdélo, jeudi 8 janvier 2026, les secrétaires administratifs du groupement Mogoté, Justin Teguera, explique qu'en plus des maisons détruites, de champs ont été dévastés. Des animaux, de la basse-cour et des objets domestiques emportés. À ceci s'ajoutent des éboulements des terres dans plusieurs villages du groupement Mogoté. Les secrétaires administratifs du groupement Mogoté plaident pour une assistance en sémence en faveur des habitants du milieu qui vivent en majorité de l'agriculture. Justin Teguera en parle.
La pluie qui s'abat sur la majeure partie du territoire d'Idjoui, en général et à Mogoté en particulier, cause beaucoup de dégâts. Dans la nuit du 20 au 21 décembre 2025, tous les champs ont été ravagés avec tout ce qu'il y avait comme semences. La population n'a rien récolté et cela crée déjà la famine dans les ménages. En date du 22 décembre 2025, dans le village de Kabingu, en groupement Mogoté, M. Fidel Mounazi a perdu sa maison. En date du 6 janvier 2026, dans le village de Mogoté, M. Minita Kulimushi a perdu une partie de sa maison. Les mêmes pluies ont causé d'énormes dégâts dans les villages Nkouvu, Bwiru, Bwendo, Kabingu et Moussama, dans la partie littorale du groupement Mogoté. Le poste de santé de Chichi était emporté par les eaux de la rivière portant les mêmes noms. La population de Mogoté lance un cri d'alarme et demande aux gens de bonne volonté, aux organisations humanitaires et aux autorités à tous les niveaux de leur venir en aide en semences, en médicaments pour prévenir le pire.
Signalons que le groupement Mogoté, constitué de 18 villages, compte à ces jours 72 000 habitants, conclut Justin Teguera, son secrétaire administratif. Mesdames et messieurs, en cours de diffusion, c'est l'édition du journal aussi Radio Maïdéléo. Merci de nous rester fidèles.
Suivez Radio Maïdéléo en direct partout dans le monde sur www.radiomaïdéléo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maïdéléo. Radio Maïdéléo, c'est vous.
Changeons de chapitre à présent et disons que sur les 30 tâches identifiées dans l'accord de Washington signé le 27 juin et entériné en décembre dernier par le chef d'État congolais et rwandais, 19 ont connu un début de mise en œuvre pour un taux global d'exécution de 23,3%. Ces chiffres sont publiés par le baromètre des accords de paix en Afrique, une plateforme indépendante dédiée au suivi, à l'évaluation et à la promotion de la mise en œuvre effective des accords de paix en Afrique, expédié Kialo.
Dans son rapport du mois de décembre publié en janvier 2026 et consulté par Radio Maïdéléo ce jeudi 8 janvier, le baromètre rapporte que les progrès enregistrés dont la mise en œuvre demeure toujours fragile, inégaux et marqué par une dynamique d'essoufflement. Le suivi du mois de décembre 2025 a fait état de la persistance d'une stagnation préoccupante du processus de mise en œuvre, fait savoir le baromètre dans son rapport. Individuellement, sur les 26 tâches relevant de la responsabilité de la RDC, dont l'accord, seuls 16 ont connu une exécution partielle pour un taux global d'exécution de 22,1%, précise le baromètre. Quant au Rwanda, sur les 22 tâches qui lui sont attribuées dans l'accord, seuls 13 ont connu une exécution partielle pour un taux global d'exécution de 22,7%. Le baromètre note néanmoins certaines avancées observées au cours de la période allant du 1er au 31 décembre, relevant purement du cadre normatif. Ceci passe par l'entérinement le 4 décembre 2025 de l'accord de paix par les présidents congolais et rwandais, la signature le même jour d'une série d'accords bilatéraux et l'adoption le 19 décembre par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution 2808. Celle-ci proroge le mandat de la MONUSCO renforçant certaines de ses prérogatives en matière de surveillance et de vérification du cessez-le-feu. Au chapitre des recommandations, le baromètre préconise certaines actions à entreprendre par chacune des parties. Au gouvernement de la RDC, d'accélérer sans plus tarder la mise en œuvre d'opérations coordonnées visant à neutraliser les FDLR tout en garantissant une protection stricte et sans compromis des civils dans toutes les zones concernées. Au gouvernement du Rwanda, de mettre en œuvre mettre sans tarder le plan harmonisé de désengagement et de levée des mesures dites défensives assorties d'objectifs mesurables et d'un mécanisme conjoint des vérifications, précise le baromètre.
Merci Expedi Kialui avec vous, Omer Moudikereza. Disons que le trafic routier entre Bukavu et Uvira en passant par la plaine de la Ruzizi continue depuis la chute de la ville d'Uvira au moment de la FSAM 23 le 14 décembre 2025. Dans la ville de Bukavu, les voyageurs affluent avec leurs marchandises déjà très tôt le matin vers les agences de transport où le départ s'enchaîne dans une ambiance jugée rassurante par les usagers.
Au parking de l'essence Major Vangu, c'est jeudi 8 janvier 2026, les véhicules sont rangés et les conducteurs se prépare à mettre les engins en état pour entamer le voyage. Ces derniers et leurs convoyeurs se montrent plutôt optimistes et rassurants. L'un d'entre eux affirme que les trajets se déroulent sans inquiétude. Selon ses chauffeurs, le coût du transport est fixé à 25 000 francs congolais par personne jusqu'à Uvira et à 15 000 francs congolais pour Kamanyola. Toutefois, la circulation reste ralentie par la présence des fosses anti-chars creusées par les belligérants lors des affrontements qui ont conduit à la chute de la ville d'Uvira. Bien qu'en grande partie recouverte, c'est improvisé dégrade la fluidité du trafic et rallonge les temps de parcours, a confié à Radio Maendeleo, un conducteur qui fait les trafics Bukavu-Uvira et vice-versa. Une course qui dura en moyenne 5 heures, s'étend désormais à 8 heures, voire davantage en raison de l'état de la route, témoigne-t-il. Les conducteurs appellent les autorités à combler ces fosses de manière convenable et à renforcer la sécurité afin de stabiliser définitivement les corridors. L'un d'eux s'exprime.
À l'aller comme au retour, nous voyageons en paix. Il n'y a pas en sécurité. Partout où nous passons, nous rencontrons les autorités qui nous facilitent la tâche. Cependant, la route n'est pas bonne. Cependant, la route n'est pas encore en bon état. Nous demandons aux autorités de nous aider à réhabiliter cette route, surtout au niveau des fosses anti-chars, afin de permettre une bonne circulation. Aujourd'hui, nous mettons 8 heures pour arriver à Uvira, alors qu'auparavant, les trajets se faisaient entre 4h, voire 3h30.
Pour Diop Loaboshi, responsable de l'agence Okapi Original, l'une des agences qui effectue ces trajets, un autre défi est lié au comportement des rabatteurs, communément appelés bakokai, qui perturbent l'embarquement de passagers. Selon lui, cette attitude constitue un risque de perte pour les transporteurs si aucune mesure n'est prise. Une passagère rencontrée ce matin s'est réjouie de pouvoir voyager vers Uvira et de reprendre ses activités commerciales après plusieurs mois d'interruption. Elle condamne néanmoins le fait pour ces bakokai de brutaliser les passagers. Elle appelle les autorités à tout faire pour réguler cette situation à l'essence Major Vangu.
Je vais voyager vers Uvira, mais ici, au niveau du parking d'essence Major Vangu, les agences nous font vraiment souffrir. Parfois, on nous arrache même nos valises et on se demande comment cela va se passer. Vraiment, que les autorités nous aident à rétablir l'ordre à ces niveaux. À chaque fois que nous arrivons ici, c'est le désordre total. On peut même y perdre la vie. Vraiment, que les autorités interviennent.
Il s'est de rappeler que cette reprise du transport est intervenue après environ 10 mois de suspension liés aux affrontements dans la plaine de la Ruzizi, notamment à Luvungi, Katogota, Bwegera et Sangé.
Rendons-nous au Nord Kivu dans cette édition du journal où la garantie locative est désormais fixée à 3 mois, aussi bien pour les habitations que pour les locaux commerciaux, ceci dans le but de mettre fin aux pratiques abusives de certains bailleurs exigeant de garantie locative de 6 mois voire 1 an sans tenir compte de la situation économique des locataires. Cette décision a été annoncée lors d'une rencontre entre les autorités urbaines et les bailleurs de portes commerciales mercredi 7 janvier 2026 à Goma, à Lankabika.
À en croire les maires adjoints de la ville de Goma, Désiré Ngabu Kisuba, cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un arrêté du gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, visant à mettre fin aux excès constatés dans les secteurs locatifs. Pour lui, tout propriétaire qui exigera plus de 3 mois de garantie s'expose à des sanctions légales. Celui-ci affirme sa détermination à assainir les secteurs locatifs, protéger les locataires et commerçants et garantir un climat plus équitable pour tous les concernés. Désiré Ngabu Kisuba, dans ses propos recueillis par notre correspondant à Goma, Paulin Aganzé.
Les bailleurs font souffrir les locataires ici dans la ville de Goma. Ces derniers se permettent de doubler, voire même tripler, soit les factures du courant électrique ou celles de la régie des eaux. Le gouverneur des provinces du Nord Kivu nous a chargé d'informer le public que toutes ces manigances sont terminées. Concernant les garanties des différentes maisons à louer, la loi est claire à ce sujet. Aucun bailleur n'a le droit de demander une garantie supérieure à 3 mois, vu la situation économique difficile que traversent plusieurs ménages. Tout celui qui ira à l'encontre de cette mesure, il sera puni conformément à la loi.
De leur côté, les acteurs sociaux du site Kivu appellent eux aussi à l'application de cette mesure dans leur province. Ils rappellent que l'article 18 de la loi sur les baux à loyer non professionnels limite clairement la garantie locative à 3 mois pour les logements résidentiels. Pour eux, faire respecter cette disposition légale permettrait de soulager les locataires, souvent victimes d'exigences abusives.
Merci Alain Kabika. Et avant de parler sport, disons que pour bien débuter cette année 2026, Canal Plus prévoit une offre promotionnelle à ses anciens et nouveaux clients. Cette offre implique pour tout réabonnement avant le 18 janvier le bénéfice de suivre toutes les chaînes Canal Plus pendant une durée de 30 jours. Selon Siméon Moulaba, responsable de vente à Canal Plus au Sud Kivu, pour bénéficier de cette offre, le réabonnement doit se faire à la formule à échéance. Une façon pour Canal Plus de souhaiter la bonne année à tous ses clients, Martel Siméon Moulaba, que je vous propose de suivre dans cet élément.
En fait, il s'agit de l'offre toute la chaîne Canal+, que nous offrons à tous nos clients qui reviennent se réabonner, à la même formule qu'ils avaient avant donc, c'est-à-dire et les anciens clients et les nouveaux clients qui ont acheté les kits au mois de novembre et décembre, s'ils revenaient se réabonner à la même formule qu'ils ont ou soit qu'ils avaient, ils ont droit à toute la chaîne Canal+ pendant 30 jours. En fait, c'est pour dire le bienvenu ou soit le bonne année à tous nos clients et nos nouveaux et nos anciens clients. Et c'est aussi une façon de compatir avec eux pour une nouvelle année et leur souhaiter toutes les bonnes choses par rapport à la nouvelle année.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maedeleu. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
En sport, la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations s'y poursuit ce vendredi 9 janvier avec l'étape du quart de finale. Plusieurs confrontations sont prévues à ce stade. À 18h, le Mali affronte le Sénégal pour un duel entre deux géants de l'Afrique de l'Ouest. Les Aigles du Mali abordent cette phase avec beaucoup d'ambition après avoir sorti de la compétition les Aigles de Carthage de la Tunisie. Devant eux, le Sénégal se dresse comme un géant coriace dont l'ambition est de toucher le Graal en se retrouvant les 10 nations offre à cette affiche de quart de finale une saveur aussi particulière et spéciale. Cette rencontre se joue au grand stade de Tanger. 3 heures après ce match, précisément 21h, le Cameroun en découdra avec le Maroc, pays organisateur de la compétition. Les combats s'annoncent rudes entre les deux lions, mais le moindre détail suffira pour dénouer les scores. Cette affiche est prévue au Prince Moulay Stadium de Rabat.
La revue de presse. Radio Maïndélu Cap vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
La journée mondiale des orphelins de guerre et la vie difficile que mènent les enfants en Chabunda jusqu'à virer dans l'exploitation minière font partie des sujets commentés par la presse. Jeudi 8 janvier 2026, Hélène Boudiriri pour la revue de presse.
Nous allons commencer avec ce titre du Souverain Libre, Chabunda. Les enfants abandonnent les études pour l'exploitation minière. Des jeunes et des enfants abandonnent les études et s'élancent dans l'exploitation minière. Après le travail, certains se livrent à la consommation des drogues, fait savoir les Souverains Libres. Une situation décriée par la société civile des Chabunda qui alerte sur le fait que plusieurs enfants sont déplacés par l'escalade de la violence. Elle interpelle aussi les services étatiques, associations sans but lucratif, organisations non gouvernementales ainsi que les parents à protéger les enfants et à respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire ainsi que de la convention relative aux droits de l'enfant. Elle se dit être profondément préoccupée par la sécurité et le bien-être du grand nombre d'enfants qui fuient et cherchent refuge. Alors que les familles fuient, les enfants font face à des risques aigus de protection, notamment la séparation des familles, l'exposition à la violence, l'exploitation, la violence basée sur le genre et la détresse psychosociale, notent les Souverains Libres. Watoto News, quant à lui, parle des orphelins victimes silencieuses de la crise humanitaire et des conflits armés. À l'occasion de la Journée mondiale des orphelins des guerres, célébrée le mardi 6 janvier, la situation des enfants orphelins dans plusieurs territoires du Sud Kivu suscite une vive inquiétude, indiquent ces médias. Entre malnutrition, abandon scolaire et absence d'assistance humanitaire, ces enfants demeurent parmi les populations les plus vulnérables dans un contexte d'escalade des conflits armés, poursuit-il. Selon les alertes lancées par plusieurs organisations locales, notamment l'Initiative pour les progrès du Congo, IPECO, contactée par Watoto News, de nombreux orphelins souffrent de malnutrition sévère dans plusieurs villages du territoire des Kalehe, précisément à Ramba, Mwinga, Kachiri, Karasi et Chikoma, dans les groupements de Mubuku, zone de santé de Bunyakiri. Ces enfants, souvent déplacés, vivent sans accès suffisant à la nourriture, aux soins de santé et à un abri adéquat. De leur côté, les journaux et médias en ligne à Kinshasa tablent notamment sur les effets de l'opération américaine ayant abouti à l'enlèvement du président vénézuélien. En se rangeant derrière les communiqués de l'Union africaine sur la situation au Venezuela, estime Congo Nouveau, la République démocratique du Congo affirme sa solidarité diplomatique africaine. Une position qui peut surprendre alors que Kinshasa entretient parallèlement une convergence d'intérêts avec les États-Unis sur les minerais stratégiques de la transition énergétique mondiale, note le journal. Dans une déclaration commune, les pays africains, membres du Conseil de sécurité de l'ONU, ont exprimé leurs profondes préoccupations face à la situation au Venezuela, appelant au dialogue et au respect des principes de souveraineté et des droits internationaux. Pour la RDC, poursuit le quotidien, l'enjeu est désormais mesurable. Industrialiser localement, sécuriser les corridors et les chaînes de valeur, renforcer l'état fiscal et la crédibilité institutionnelle, tout en s'adossant à des partenariats stratégiques solides comme celui noué avec les États-Unis. Autrement dit, transformer l'abondance minérale en capacité de négociation globale.
Un communiqué avant de clôturer cette édition du journal. Nous avons appris avec regret que deux personnes mal intentionnées profitent de la réputation du docteur Justin Mudekereza, directeur mondial des RDI, pour tenter d'arnaquer la population. Ces individus contactent actuellement les gens, notamment via WhatsApp, en leur faisant croire qu'ils vont leur donner des emplois dans des ONG locales ou internationales au Sud Kivu, moyennant une caution. Ces arnaqueurs utilisent à cette fin la photo du docteur Justin Mudekereza sur leur profil WhatsApp dans le but d'instaurer une relation de confiance. Nous tenons à préciser fermement que ces personnes sont des escrocs et qu'elles n'ont aucun lien avec Dr Justin Mudekereza ni avec des organisations. Les véritables opportunités annoncées informations officielles sont publiées uniquement dans le groupe WhatsApp officiel de RDI et de la Fondation Justin Mudekereza. Nous vous invitons à faire preuve de prudence, à ne pas répondre à ces tentatives d'arnaque et à signaler toute recrudescence de ces actes frauduleux. À vos autorités compétentes, votre sécurité et votre vigilance sont nos priorités. Merci de votre attention. Faites à Kinshasa le 8 janvier 2026. La cellule de communication des RDI signe le présent communiqué. Ainsi s'achève cette édition du journal, mesdames, messieurs, présentée par Myriam Moufano, Anissé Akonkwa, assure la mise en onde. Au revoir.